Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Nous sommes mardi 21 février 2023. Bonsoir, chers fidèles de la radio Nzambarat Kakawe. Bienvenue à ce rendez-vous du journal que nous ouvrons avec les principaux titres. Pourquoi le processus de paix n'avance pas en République démocratique du Congo? Le chef de l'État burundais a été chargé du suivi par ses homologues africains lors du sommet de l'Union africaine. Évariste Ndayishimiye l'a déclaré ce lundi de retour d'Addis Abeba. Plus de 5000 Burundais sont concernés par l'émigration dans l'espace Schengen via la Serbie. Le processus a été parsemé de beaucoup d'embûches pour ces migrants selon une enquête réalisée par un journaliste burundais. À suivre dans ce journal. Et la faible capacité des fournisseurs de carburant sur le marché burundais serait aussi à la hausse des spéculations constatées dans les quatre coins du pays. C'est ce que dénonce l'ONG Parsem au moment où le Burundi connaît une nouvelle vague de pénurie de ce produit. On fera aussi le point dans cette édition. Rebonsoir et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Ouvrons le journal par la page politique. La crise en République démocratique du Congo a été l'un des sujets qui ont alimenté les débats lors du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Évariste Ndayishimiye, président burundais et président en exercice de l'EAC, a indiqué que la réunion à ce sujet a permis de comprendre pourquoi le processus de paix n'avance pas. Selon lui, ses homologues lui ont confié la tâche de réunir au plus vite à Bujumbura toutes les nombreuses commissions créées pour soutenir le processus. Il se confie aux journalistes à l'aéroport international de Bujumbura à son tour d'Éthiopie. On l'écoute.
Cette réunion s'est bien passée parce qu'on a fait un pas important. On s'est focalisé sur le vrai problème. Pourquoi nous prenons toujours des décisions qui ne sont jamais mises en œuvre et qu'il n'y a pas d'avancée? Nous nous sommes alors entendus sur une chose, parce qu'auparavant certains disaient que c'est un problème entre deux pays, mais les chefs d'État de l'EAC nous avons dit que nous ne pouvons pas accepter que la crise qui prévaut à l'est de la RDC ne concerne que deux pays, alors que nous avions déjà convenu que c'est un problème régional parce que nous nous constituons une même communauté. Dans ce cas, nous devons y faire face comme un problème régional. Nous avons constaté que, souvent, nous prenons des décisions, puis nous nous séparons et il n'y a personne pour assurer le suivi pour leur mise en œuvre. Nous sommes rendus compte qu'il y a trop de commissions qui sont chargées de suivre nos décisions, mais chacune travaille indépendamment des autres, ce qui arrangeait alors les protagonistes du conflit parce qu'ils ne rendaient compte à personne. Maintenant, nous avons décidé de mettre ensemble toutes ces commissions chargées de suivre le processus de cesser le feu en RDC, ce qui nous permettra désormais de demander aux concernés pourquoi ils ne s'exécutent pas et ainsi trouver rapidement une solution sans devoir réunir encore les chefs d'État. C'est pour cela qu'ils m'ont confié de convoquer toutes les commissions, c'est-à-dire celles chargées de suivre les décisions prises à Angola, celles chargées de veiller à l'exécution d'anciennes décisions, une commission de la MONUSCO, la force régionale déployée là-bas, il y a aussi les autorités congolaises, le M23. Vous comprenez que c'était un véritable méli-mélo. Maintenant, on m'a donné les pouvoirs de les inviter ici à Bujumbura pour qu'ils ne constituent tous qu'une seule équipe qui va se fixer les actions à mener. Ainsi, je vais les inviter dans les plus brefs délais et nous espérons que les choses vont enfin se décanter. Parce que nous sommes dit que c'était cela l'obstacle.
Évariste Ndayishimiye de retour ce lundi du sommet d'Addis Abeba. Et je le disais en titre, le récent phénomène de migration des Burundais vers l'espace Schengen via la Serbie a été non seulement pénible, mais aussi très coûteux pour les concernés. Cela ressort d'une enquête réalisée par Alain Majesté Barenga, un journaliste burundais indépendant. Il montre que le processus était parsemé de beaucoup d'embûches. Les précisions d'Alexandre Niyongeko.
Cette enquête d'Alain Majesté Barenga, ce journaliste indépendant, révèle que depuis 2018, environ 5000 Burundais de tous âges, de tous sexes et de toute ethnie sont partis pour le continent européen en passant par cette voie. Chacun devait d'abord réunir une somme colossale d'environ 14 millions de francs burundais, nécessaire pour avoir le ticket de voyage, d'autres documents nécessaires pour l'embarquement et pouvoir arriver à destination. Pour avoir ce montant, la plupart ont dû vendre leurs propriétés foncières et d'autres biens personnels pour espérer poser les pieds dans un pays de l'espace Schengen via la Serbie. D'autres se sont lourdement endettés dans le même but. Des candidats espéraient ainsi arriver dans une ville européenne de leur rêve comme Paris, Bruxelles ou Rome, pour ne citer que celle-là. Un ancien employé d'une banque à Bujumbura a confié à l'enquêteur que pour y arriver, il a dû vendre sa parcelle 6 à Bujumbura pour 120 millions de francs burundais et qu'il était convaincu que c'était le moment ou jamais d'avoir un visa pour l'espace Schengen pour lui et sa famille. Pour lui, c'était quasi impossible d'avoir ce visa par voie officielle. Pour ce qui est du voyage de Bujumbura à la Serbie, il faut dire que le chemin était parsemé de beaucoup d'ennuis et d'obstacles. Des sources d'Alain Majesté Baringa, l'enquêteur, disent que depuis 2018, entre 60 et 100 Burundais embarquaient chaque semaine à bord de la compagnie Ethiopian Airlines depuis l'aéroport international de Bujumbura pour Belgrade, la capitale de la Serbie, en passant par Istanbul, en Turquie, pour une escale. À côté d'être long et fatigant, les passagers étaient souvent contraints de donner des pots de vin, voire de se prostituer pourvu qu'ils arrivent à destination. L'auteur de l'enquête qualifie ce voyage de 3 mois comme un chemin de la croix, un véritable parcours de combattant. Ce trafic vers l'espace Schengen via la Serbie a continué jusqu'à la date du 20 octobre l'année dernière, date à laquelle la Serbie a supprimé le privilège pour les Burundais d'aller sur son territoire sans visa. Dans nos éditions de demain, nous reviendrons pour le deuxième volet de cette enquête sur le caractère mafieux constaté dans ce trafic avec l'implication de certains officiers de police et du Service national de renseignement.
Merci Alexandre Niyongeko. Et en page économie, le président de l'Assemblée nationale affirme que la valeur de la monnaie burundaise n'est pas aussi basse que l'estiment certains étrangers. Sa valeur réelle est bien importante au Burundi selon les propos de Daniel Gérard Ndavirabe. Un message adressé à la population de Matongo samedi dernier après les travaux communautaires organisés dans cette commune de sa province natale de Kayanda. Selon lui, si la population burundaise parvient à consommer ce qu'elle a produit ou s'acheter de la viande sans jamais recourir à un dollar américain, cela prouve que la monnaie burundaise a de la valeur. On l'écoute.
Il y a des étrangers qui achètent du carburant, de la nourriture, d'autres choses ici dans notre pays. Ceci montre que notre monnaie burundaise a de la valeur. Ceux qui disent que notre monnaie est dévaluée par rapport aux autres pays de la sous-région, c'est impossible. C'est ce que disent les Blancs dans le but de continuer à nous assujettir pour que nous propicions dans la misère. Est-ce que tu as déjà vu le dollar américain? Est-ce que tu ne manges pas de la viande? En plus, seul du lapin, sans avoir touché de leur dollar. Est-ce qu'on a besoin du G? Et alors, quel est le rapport avec le franc burundais? La valeur de la monnaie burundaise est liée à notre production agricole. Les Blancs comparent la valeur monétaire du dollar à la nôtre. Est-ce que tu as déjà mis les pieds dans leur pays?
La mauvaise gouvernance du CNDD-FDD a entraîné la dévaluation de la monnaie burundaise, explique Frédéric Wambuginyumvila, ancien vice-président de la République. Selon lui, les dirigeants devraient apprendre à dire la vérité devant la population et expliquer correctement l'origine de cette dévaluation monétaire. Il aurait fallu que le président de l'Assemblée nationale, Gérard Daniel Ndavirabe, explique à la population cette dévaluation par comparaison à la montée des prix des produits alimentaires. On l'écoute.
Visiblement, quel était son objectif? C'était pour peut-être étouffer les bruits selon lesquels la monnaie burundaise se déprécie au jour le jour. Et il voudrait expliquer à la population présente que ce n'était pas vrai. S'il voulait expliquer la dévaluation de la monnaie, il y avait des termes très simples pour le dire. Il suffisait de comparer le pouvoir d'achat d'il y a 10, 20 ans et le pouvoir d'achat d'aujourd'hui pour que les gens comprennent qu'il y a une différence. Y aller au marché il y a 3 ans, on pouvait acheter peut-être à tel montant un coq ou un panier de patates douces ou un panier de pommes de terre. Et aujourd'hui, avec 10 000 francs, on peut avoir peut-être l'okaa, peut-être du panier, ou peut-être 4 fois plus qu'on donnait avec le coq. Donc ça vous démontre qu'il y a la dévaluation de la monnaie. Il y a 3-4 ans, avec 100 000 francs, un fonctionnaire moyen de l'État pouvait parvenir à faire vivre sa famille. Mais aujourd'hui, avec la même somme, on ne peut plus le faire. Donc ça signifie que la monnaie burundaise a perdu sa valeur. Ça, c'est un fait. Mais il ne fallait pas expliquer pour lui comme cela, parce que la population allait comprendre le problème qui s'oppose. Et la question logique qui conséquente, c'était de dire pourquoi ça. Et au lieu de dire que c'est le pouvoir qui est à l'origine de la perdition, de la dépréciation de la monnaie burundaise, il ne pouvait pas accepter cela, il devait cacher la vérité. Cependant, je répète à l'endroit de ceux qui m'écoutent, la valeur de la monnaie a dépendu de la façon dont le CNDD-FDD dirige le pays. Parce que la population, elle est là. Les richesses qu'on peut fructifier sont là. Maintenant, ce qui manque, c'est le programme pour faire fructifier les richesses que nous avons dans le pays et augmenter justement la valeur de la monnaie
et entrer dans le développement. Mais ils ne veulent pas démontrer ça parce que justement, ils doivent cacher la vérité à ces populations qui les ont élus malheureusement.
Inzamba. Suite de cette édition, les mauvaises pratiques de gouvernance sont à la base des pénuries répétitives du carburant au Burundi et sont, entre autres, le monopole des fournisseurs et l'impunité aux différents responsables qui se rendent coupables des mauvaises procédures au niveau de l'approvisionnement et la gestion des devises. C'est Faustin Dikoumana, directeur national de l'ONG locale Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités qui le dit après une nouvelle pénurie et du carburant signalée dans tous les coins du pays. On l'écoute.
D'abord, il faut augmenter la capacité des réserves de change de notre pays à la Banque centrale. Il ne faut plus avoir des réserves de change en dessous d'un mois. Il faut des réserves de change suffisantes, 3 ou 4 mois. Donc, une cadre de vie suffisante permettant une marge de manœuvre suffisante pour acheter à l'extérieur, pour importer une gamme de produits variés dont le pays a besoin. Outre même cette carte de réserve de change, il faut que le numéro de devise qui est disponible soit géré de manière transparente. Faut pas qu'il faut privilégier des fois l'orientation d'achat des marchandises suite à des spéculations de certains faux cadres de l'État. Vous avez entendu les cas où il y a une malversation dans la gestion des devises de la Banque centrale. Et ces cas, malheureusement, ont été impunis. Donc l'impunité aussi consacre les mauvaises pratiques et les mauvais comportements des hauts cadres de l'État qui étaient censés gérer la chose publique en bon père de famille. Deuxièmement, c'est le circuit d'approvisionnement. Très récemment, on parlait d'une entreprise qui avait le monopole d'importer le cadre, presque le monopole. On disait l'Interpétrole. On a crié au effort pour sécuriser l'approvisionnement d'un pays dans un produit aussi stratégique. Il faut au moins un oligopole au minimum. 2 ou 3 opérateurs doivent agir dans le secteur. Il faut 2 ou 3 opérateurs. Et il faut une analyse, une évaluation de la capacité organisationnelle, de la capacité logistique, de l'expérience, de l'expertise de la dite entité, de la dite société qui est choisie par rapport à la capacité de s'acquitter de cette mission aussi noble d'approvisionner le pays en produits aussi stratégiques.
Le président de l'ONG Parsem souligne également que le contrôle de la capacité des fournisseurs s'avère nécessaire pour éviter le clientélisme et toute forme de spéculation. Faustin Dikoumana demande au gouvernement d'intégrer la rubrique infrastructure du carburant dans le budget de l'année prochaine. Encore une fois, on l'écoute.
Donc, si on parle de la régie des eaux, mais c'est aussi, il faut une évaluation technique objective sur les capacités de la régie des eaux. Et on a parlé de prestige, on ne peut pas la remplacer un monopole par un autre monopole. Enfin, cette tendance de considérer que la gestion des eaux de la Banque centrale, il faut, c'est comme un trésor sur lequel il faut spéculer. Je donne les devises à qui je vais, je sélectionne qui je vais pour qu'il soit privilégié dans l'importation de tel bien ou tel autre. C'est une situation vraiment qui nourrit les spéculations et même qui a traité la corruption dans une certaine mesure. Donc il faut la transparence dans nos circuits d'approvisionnement. Il faut la transparence. Nous demandons vraiment au gouvernement de choisir 2 ou 3 opérateurs dans nos secteurs. Troisièmement, la capacité de stockage, les infrastructures de stockage. Dans les documents de développement qui ont toujours et qui ont été élaborés, on a toujours insisté sur l'investissement dans la capacité de stockage un produit stratégique. Mais au niveau de la fréquentation budgétaire, au niveau de la priorisation budgétaire, rien n'est fait. Nous demandons notamment alors que dès cette année avec la définance, il faut que la construction d'infrastructures de carburant, plutôt d'autocarburant de carburant, soit une priorité, la priorité des priorités. En dehors de ces trois axes, il sera difficile vraiment de trouver une solution idoine à la problématique de rareté et de l'utilité de stock de carburant dans notre pays.
Faustin Ndikumana, le directeur national de l'ONG Parsem. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Je dis merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous étiez avec Joséphine Jones-Condiman dans la présentation. Excellente soirée à tous. Au revoir et à la prochaine.